le numéro 13 de la rue Marlot. De René de Pongest. Chapitre 1. Les locataires des époux Bernier. La rue Marlot, qui a changé de nom ou qui même a peut-être disparu depuis l'époque où s'y est passé le drame que nous allons raconter, était située dans le quartier le plus calme, le plus retiré du Marais, à deux pas de la place royale, qu'on appelle la place des Vosges, comme au temps des immortels principes. Nos révolutions, en effet, qui semblent si bien destinées, c'est du moins ce qu'affirment ceux qui les font, à apporter dans nos lois et dans nos mœurs des réformes utiles, n'ont guère servi qu'à réformer les noms de nos rues. Celles de ces rues parisiennes, où nous prions nos lecteurs de nous suivre, se composaient alors d'une vingtaine de maisons, et celles de ces maisons qui portaient le numéro 13 étaient de la plus modeste apparence. Ces quatre étages étroits, éclairés chacun par trois fenêtres, atteignaient à peine la hauteur du second de deux gigantesques constructions qui, la flanquant orgueilleusement à droite et à gauche, semblait lui disputer le peu d'espace qu'elle occupait. On eût dit un pauvre petit bourgeois fourvoyé entre deux gros financiers prêts à l'étouffer. En face existait l'hôtel du Dauphin, qui n'avait d'ordinaire pour clients que des provinciaux dont les parents habitaient dans le voisinage ou, par hasard, quelques étrangers peu soucieux du bruit et du tumulte des quartiers riches et populeux. Le fait est que la rue Marlot était fort tranquille. Les conducteurs d'omnibus l'ignoraient, et il n'y passait pas 10 voitures par jour. Dès 9 heures du soir, le silence y régnait si complètement qu'on aurait pu s'y croire dans la ville du Grand Roi avant que les salons de Louvois fussent devenus les cabarets des citoyens représentants du 4 septembre. On entrait au numéro 13 par une petite porte bâtarde donnant sur un couloir étroit et assez obscur où l'on rencontrait immédiatement à droite la loge du concierge. C'est là que, depuis plus de 20 ans, deux braves gens, les époux Bernier, veillaient sur les destinées de leur royaume. Le mari, vieux soldat tout rhumatisant, n'était plus fort un gambe, mais sa femme, quoiqu'elle approchât de la 60aine, avait encore bon pied bon œil. Il est vrai que Madame Bernier n'avait que 4 locataires. Au premier demeurait le capitaine Martin, qui avait perdu un bras et gagné sa croix en même temps que sa retraite à Sébastopol. Le matin, après son déjeuner, repas frugal, que lui montait son concierge, le vieil officier sortait pour faire sa promenade hygiénique sur la place royale. Le soir, il dînait dans un petit restaurant du quartier, puis, après une courte station au café voisin, en compagnie de quelques anciens frères d'armes, il rentrait invariablement à 9 heures. Au second, c'était Monsieur et Madame Chapuzy, Philémon et Baucis, à eux deux près d'un siècle et demi. Philémon Chapuzy s'était retiré des contributions indirectes avec une de ses modiques pensions que l'on sait. Et Baucis l'administrait en ménagère si industrieuse que les petits rentiers pouvaient recevoir 4 ou 5 fois l'an une 12aine d'amis. L'appartement du 3e était occupé, mais depuis 4 mois seulement, par une jeune femme blonde et frêle, Madame Bernard, à qui la mère Bernier avait fait d'abord assez mauvais visage. Lorsque Madame Bernard s'était présentée pour louer dans la maison, elle était vêtue de noir, avait l'air souffrante et malheureux. De plus, elle paraissait dans un état de grossesse assez avancé. Tout cela avait effrayé l'honorable concierge du numéro 13. Égoïste, comme presque toutes les vieilles gens, elle avait craint que cette femme ne lui occasionnât à un moment donné quelque dérangement, soit à cause d'elle, soit à cause de son enfant, et elle avait hésité à l'accepter pour locataire. Mais le curé de la paroisse Saint-Denis était venu lui recommander l'étrangère. Il avait affirmé que Madame Bernard était une jeune veuve digne de tout respect, de plus orpheline, et Madame Bernier avait alors disposé de son logement en sa faveur. Elle n'avait pas eu d'ailleurs à s'en plaindre. Sa nouvelle locataire était douce et bonne, ne sortait que rarement et ne recevait jamais personne. Au moment où nous commençons ce récit, elle venait de mettre au monde, 5 ou 6 jours auparavant, une charmante petite fille qu'elle nourrissait elle-même. Et elle était soignée par une digne sœur de charité que le brave prêtre son protecteur, lui avait envoyé. Quant au dernier étage de la maison, étage mansardé, la moitié en était louée à un employé ambulant des postes, M. Tissot, qui ne couchait chez lui que deux ou trois fois par semaine. L'autre moitié servait de grenier au ménage Bernier. M. Tissot était le seul locataire pour lequel la porte s'ouvrit à tout moment de la nuit, car ses heures de rentrée étaient forcément irrégulières. Aussi avait-il une façon particulière de se faire reconnaître de ses concierges, afin que ceux-ci ne pussent être induits en erreur par quelques polissons du quartier. Il sonnait lentement trois coups et frappait en même temps deux fois au volet de la loge. Monsieur et Madame Bernier savaient ainsi toujours à qui ils avaient affaire et l'un ou l'autre, au signal convenu, tirait le cordon sans s'inquiéter davantage de celui qui rentrait, certain qu'ils étaient d'avance de son identité. Un seul escalier, on le comprend, desservait toute la maison. Il commençait au fond du couloir, à droite, en avant de la porte vitrée d'une cour intérieure de 10 mètres carrés, où le soleil ne pénétrait jamais, grâce à l'élévation des constructions voisines, qui n'avaient sur le numéro 13 que les jours de souffrance légalement autorisés. Et cet escalier grimpait, raide et tortueux, du rez-de-chaussée au comble, mais aussi luisant à la dernière marche qu'à la première. Sur ce point-là, comme tous ceux qui tenaient à la propreté de son domaine, Madame Bernier était impitoyable. À chaque étage, il existait un palier de quelques pieds de largeur, orné d'un porte-manteau, fiché dans le mur, comme on en voit encore dans quelques vieux hôtels. Le numéro 13 de la rue Marlot était donc, on le voit, malgré son numéro fatidique, la plus paisible et la plus calme des habitations. Les couches de Madame Bernard étaient le seul événement intéressant qui, depuis 10 ans, en eût troublé le repos. Quoiqu'elle n'aimât que médiocrement les enfants, la brave concierge s'était sentie néanmoins émue à la vue de ce petit être dont le père n'était déjà plus. Elle avait alors offert spontanément ses services à la jeune mère, auprès de laquelle elle se rendait à chaque instant pour s'assurer qu'elle ne manquait de rien. Le 6e jour de sa délivrance, le 3 mars 1800, Madame Bernard fut atteinte d'une fièvre de lait assez intense, et Madame Bernier ne voulut se coucher qu'après avoir rendu une dernière visite à la malade. Le lendemain matin, au point du jour, la bonne femme venait de se lever, car elle était toujours debout la première, et elle avait ouvert pour le laitier, dont c'était l'heure, quand elle entendit tout à coup pousser au second étage un cri perçant. Reconnaissant la voix de Madame Chapuzy, elle se hâta de gravir l'escalier, mais en arrivant sur le palier, elle recula d'horreur. Appuyée contre le chambranle de sa porte ouverte et ne pouvant plus prononcer une parole, la vieille rentière lui montrait d'une main tremblante un homme renversé sur les premières marches de l'escalier du 3e étage et baigné dans son sang. « Bernier, capitaine !» appela la concierge de toutes ses forces, et sans oser faire un pas de plus. Le vieux soldat accourut aussitôt, et l'officier, que le cri de Madame Chapuzy avait réveillé, apparut en même temps à l'étage inférieur, d'où il s'empressa de monter pour se rendre compte de ce que tout ce bruit voulait dire. L'ex-fonctionnaire des contributions était lui-même sorti de son appartement. « Cet homme est mort, » dit le capitaine qui, promptement remis de son émotion, s'était penché sur le corps et en avait entrouvert les vêtements. « Mort !» répétèrent les spectateurs de cette scène. « Depuis longtemps. Il est déjà froid, » affirma M. Martin. « Il a été assassiné. »« Assassiné !» redirent les époux Bernier. « Et de deux fameux coups de couteau, voyez !» Le cadavre, un des pieds pris dans la rampe de l'escalier, gisait sur la dernière marche et couché sur le côté gauche. Il avait au cou, du côté droit, une blessure dont le sang avait jailli avec une certaine abondance, bien que la carotide n'eût pas été touchée. Et le capitaine aperçut en soulevant légèrement le mort le manche de corne d'un couteau dont la lame disparaissait entièrement dans son côté gauche, au bas-ventre.